Infobar.com.
Un an après, pratiquement, après l'interview de Jean Roch, qui a fait les plus gros scores d'Infobar, je dois dire, eh bien, on remet les couverts et on va évoquer pas mal de choses avec Jean Roch, notamment des rumeurs de fermeture sur le VIP Paris à la suite de la fermeture du Planet Hollywood. Où en est-on, Jean Roch ?
Eh bien, écoutez, nous sommes toujours au même endroit. Nous sommes toujours au 78 avenue des Champs-Élysées. Il y a beaucoup de bruits qui ont circulé, assez contradictoires. Je pense que certains sont un petit peu amusés à faire courir des bruits. C'était assez drôle, même. Il a été question, effectivement, après l'arrêt du Planet Hollywood, nous avons discuté avec les propriétaires des murs. Notre objectif n'étant pas de rester sur les Champs, c'est bien d'avoir vécu une telle aventure pendant 10 ans, aussi avec autant de moments forts. Et aujourd'hui, on a l'ambition de créer un nouveau lieu à Paris. Ça, c'est un secret de Polichinelle. Ouais. Paradoxalement, tous les endroits dont on m'a parlé sont des endroits où je ne suis sûr de n'être jamais allé, ni même pour visiter. Et pourtant, Dieu sait, je pense qu'on a dû visiter, avec mon frère Dominique, entre 30 et 40 sites sur Paris. Et ils ont trouvé le moyen de nous annoncer dans des endroits. Quoi, je veux dire, à chaque fois, c'est assez drôle. Parce qu'on annonce rien, on revendique rien, on fait les choses proprement et respectueusement. Donc,
finalement, ça contribue au buzz.
Ah ouais, mais grave, mais t'as pas idée. Le seul truc qui est gênant, c'est que comme notre échéance arrivait fin février et qu'on a obtenu une prolongation en discutant avec les propriétaires des murs, en disant, nous, il n'est pas question de rester sans un lieu. Donc, tant que le nouveau lieu ne sera pas signé, ne sera pas transformé, est prêt à réouvrir, nous resterons en place au 78 avenue des Champs-Élysées.
Dans ce nouveau lieu, tu as quand même la volonté de faire un restaurant.
Obligatoirement. Au début, à Saint-Tropez, on était un restaurant un petit peu de club. C'est-à-dire que souvent, les endroits qui ont une forte personnalité au niveau du clubbing le sont un petit peu moins au niveau de la restauration. C'est-à-dire que c'est toujours un petit peu plus emprunté. Alors qu'à Saint-Tropez, le restaurant du VIP Room, le restaurant Fedelina, qui est comme nos origines vraiment baigné dans les produits italiens, dans une culture italienne et dans une restauration italienne de qualité, ce restaurant s'est positionné naturellement. Et aujourd'hui, il ne dépend plus des gens qui viennent au VIP Room pour faire la fête. En termes de clubbing, il y a des gens qui ne sortent pas du tout, mais qui viennent dîner dans ce restaurant. Il a sa propre personnalité, sa propre identité et son propre succès, qu'il ne doit qu'au travail de Dominique, qui s'est beaucoup investi là-dedans, et de David, le manager de Saint-Tropez. Même s'il y a des gens qui ne viennent pas spécialement pour le club, à travers le restaurant, ça a été un espèce de passeport pour le club. Et naturellement, des gens qui n'avaient pas prévu dans leur esprit de faire la fête ce soir-là, observant un petit peu tout le folklore tropézien des gens qui arrivaient dans le club et tout, ils se sentent un petit peu impliqués dans le mouvement et naturellement, ils n'auraient peut-être pas attendu minuit et demi ou une heure du matin pour venir dans le club. Voilà pourquoi le restaurant c'est important et c'est important dans un second domaine, c'est que en début de semaine, quand les clubs n'affichent pas complet, quand tu as un restaurant et que tu as un espace un peu lounge, tu peux te permettre d'accueillir des invités, créer un climat, une ambiance et de faire un truc un peu sympa. J'appelle ça un stabilisateur de clientèle et en tout cas, c'est assez compliqué. Convivial, un restaurant, ça crée un rendez-vous. Voilà pourquoi il y aura toujours maintenant un restaurant affilié au VIP Room.
Le même nom ou non, tu non, partiras non. Sur une cuisine différente et une identité différente.
On est dans un schéma un peu plus, pour ceux qui connaissent et qui aiment bien, dans l'esprit d'un Cipriani à Londres ou à New York, qui est un restaurant italien de qualité. Et là, on a vraiment trouvé notre mesure avec le restaurant Fedelina et ça se passe super bien.
Donc pour synthétiser, l'échéance du prochain VIP Room Paris, c'est entre 6 et 1 an.
Voilà, d'accord. Ça reste réalisable en tout cas.
D'accord, alors maintenant on switch sur VIP Room Saint-Tropez. L'ouverture est prévue pour quand ?
L'ouverture est prévue pour le 30 avril, veille du 1er mai. Comme je te l'ai dit précédemment, le week-end de Pâques tombait très tôt cette année. C'est exceptionnellement, on n'a pas ouvert pour Pâques et on a bien fait parce que en me promenant le week-end de Pâques, je suis descendu le lundi. Il faisait un froid incroyable. Ça ressemblait plus à Varsovie qu'à Saint-Tropez. Les gens n'étaient pas conditionnés à faire du Saint-Tropez ce jour-là. Donc on enchaînera le week-end d'après, le week-end du 8 mai. Et puis ensuite vient Cannes. Et puis après, on se retrouvera tranquillement à Saint-Tropez tout le mois de juin. Et puis évidemment, pour la période très très forte, énorme, avec un planning cette année qui prend des proportions. On multiplie les rapports avec toutes nos relations, tous nos satellites dans le monde entier. On avait déjà un programme qui était performant, mais là on arrive à aller plus loin à travers nos réseaux et à proposer encore cette année, je pense, notre plus beau programme.
Tu peux nous parler du programme de l'ouverture du VIP Room Saint-Tropez ?
Mais il y a déjà une série de festivités avec évidemment toujours dans la même veine des artistes, des rockstars, des rapstars, des DJ internationaux. C'est un petit peu le baptême. À chaque fois, ce premier week-end, les gens attendent l'ouverture du VIP Room. Ils se retrouvent à Saint-Tropez. Ils viennent voir un petit peu ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau au restaurant ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le club ? Comment est façonnée la nouvelle équipe ? Comment le clip va se dérouler, comment la pièce de théâtre va se jouer.
Alors tu as fait les questions, maintenant que tu nous les réponses. Mais,
j'ai pas toutes les réponses puisque cette période de l'année est toujours un peu délicate parce qu'on mène deux batailles, on mène celle de Cannes qui approche très vite, dont on va parler, et on mène également celle de Saint-Tropez. Je réfléchis à plein de choses. J'ai beaucoup de discussions avec beaucoup de monde. Au niveau du club, il est agrandi, on a gagné en volume, on a un espace assez délirant. Avec Dominique, on caressait depuis des années le rêve de pouvoir faire une boîte en plein air à Saint-Tropez. Et on a peut-être trouvé la formule cette année, avec l'arrivée notamment de la cigarette. Depuis des années, tu sais, on a un toit-terrasse sur le toit du Vieil Piron. Mmh. Et sur ce toit-terrasse, depuis des années, on fait des demandes. Alors la mairie a changé à Saint-Tropez, c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a une nouvelle mairie avec un dynamisme et une envie de faire des choses et d'aller dans un sens artistique, d'encourager les artistes à venir faire des spectacles à Saint-Tropez, notamment au VIP Room. Donc tout est réuni pour qu'on évolue dans le bon sens. Et même si on n'a pas obtenu le toit terrasse, on a obtenu l'autorisation du premier étage du VIP Room de pouvoir le décapoter, faire comme un cabriolet. Donc il y aura une baie vitrée au premier étage, il y aura un espace clubbing qui a été très bien développé l'année dernière en collaboration avec le Pink Paradise, mais il y aura également un jardin suspendu où les gens pourront aller écouter la musique qui sera plus tamisée, mais en même temps être à la belle étoile. Ce sera un site unique à Saint-Tropez, et pour ceux vraiment qui n'ont toujours pas arrêté de fumer, eh bien il leur restera toujours cette opportunité-là.
C'est beau ça.
Petit clin d'œil.
Le VIP Room Cannes est le best-seller, si je puis dire, en matière de vie nocturne. Chaque année apporte son lot de nouveautés. Alors, te connaissant, tu vas encore apporter des innovations conséquentes.
On a un challenge dans cette équipe, c'est de se dire, évidemment, c'est un métier, évidemment, c'est un plan de carrière, mais il y a aussi un dénominateur commun dans tout ça, c'est la passion et l'envie de toujours proposer des trucs les plus dingues possibles. Je pense que ce qu'on a proposé l'année dernière à Cannes et ce qu'on a proposé l'été dernier à Saint-Tropez, je ne connais pas d'autres clubs dans le monde qui aient proposé un tel palmarès. Et c'est ce qui nous encourage, c'est ce qui nous stimule de s'attaquer à des trucs les plus dingues et d'arriver à les réaliser, à les construire. En l'occurrence, cette année à Cannes, évidemment, l'objectif chaque fois, c'est de dire on oublie tout ce qui s'est passé, on repart à zéro. Alors les gens, des fois, me disent « Ouais, mais pourquoi vous ne refaites pas cette soirée et tout ?» Je pense que de la refaire démystifierait tout ça, enlèverait cette part de magie, cette part de folie. L'objectif, c'est de dire qui nous n'avons pas eu, qui nous n'avons pas fait d'incroyable, qui nous n'avons pas réussi encore à attirer dans nos endroits pour pouvoir proposer au public. Et je crois qu'à chaque fois, c'est un baptême du feu. Pour nous, c'est un truc complètement hyper excitant, grisant. Et pour le public, évidemment, on radote pas, on reproduit pas les schémas. J'ai un exemple précis. L'année dernière, Timbaland, véritable triomphe. À Cannes et à Saint-Tropez. Cette année, je reprends Timbaland. Si Timbaland, j'ai aucun souci sur les réservations et sur le succès de l'opération.
Mais pour toi, ça donnera un petit peu dans la facilité.
On l'a déjà fait. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'on ne le refera pas un jour, mais on l'a déjà fait.
Ça veut dire que tout le programme aussi des artistes que tu passes, même les DJ, tu ne les refais pas.
Alors, pour les DJ, il y en a quelques-uns, vraiment ceux qui sont au-dessus du lot, qui déchirent tout, ceux-là, on les reproduit. Mais par contre, je leur ai proposé un thème pour pas tomber dans la routine et pour pas que ça ressemble à quelque chose qui puisse faire le reste de l'année. Je prends des exemples des artistes comme Martin Solveig, Joachim Garraud, des big artistes comme ça qu'on a reconduits, ou Justice. L'idée, c'est quoi? C'est de les représenter à Cannes, mais en versus, avec un autre artiste. Donc ça fait que si tu vois Martin Solveig avec Puff Daddy, évidemment, tu n'as jamais vu ça. Si tu vois Joachim Garraud avec Kylie Minogue, tu n'as jamais vu ça. Si tu vois Justice avec un autre artiste électro énorme de chez Headbanger, évidemment, tu vas dire « Waouh !» Et c'est ce qui nous stimule et c'est ce qui nous fait avancer en tout cas.
Alors parlons un petit peu du concept, de la physionomie du nouveau VIP pour cette 61e édition du Festival de Cannes.
Alors, je peux d'ores et déjà annoncer qu'il y aura beaucoup plus, pourtant c'était grand, le 60e. Ce sera beaucoup plus grand cette année que l'année dernière.
C'est pas mégalo de vouloir faire toujours, toujours, toujours plus grand?
Non, c'est pas mégalo, c'est être vivant. C'est pas se contenter d'un acquis, c'est justement de pas se prendre au sérieux, de vouloir faire plus grand. C'est douter. Vouloir faire plus grand, c'est douter. Douter de sa performance précédente. Clairement, celui qui veut pas faire plus grand, celui qui veut pas plus, c'est quelqu'un qui est sur la fin, qui est sur le déclin, qui est terminé.
Qui aime pas les risques.
Qui aime pas les risques et surtout qui est terminé. Et ça veut dire qu'il est cuit, ça veut dire qu'il est en bout de course. Quand un artiste peut pas faire une salle plus grande, quand un sportif peut pas aller plus vite, quand chacun ne peut plus se dépasser, c'est qu'il a fait l'année de trop, c'est qu'il a fait la saison de trop.
Tu veux toujours pousser les limites sans arrêt.
Clairement, le moment où j'aurai l'impression qu'on peut plus faire grand, ça voudra dire qu'on est en fin de cycle, que c'est terminé. Et comme on a toujours cette envie de proposer un truc encore plus dingue, plus fou, pour que ça te dépasse et que ça dépasse aussi les gens, c'est pas sens unique, c'est le moteur. Mais c'est pas de la mégalo, c'est pas de la démago, c'est simplement de la passion et du rêve, quoi. J'ai senti cette année une libération dans toutes les boîtes d'organisation, des prods de films, dans toutes les majors aux États-Unis, à Los Angeles. J'ai senti leur envie de faire des choses à Cannes. Parce que l'année dernière, j'ai l'impression qu'ils se sont retenus. Parce qu'ils ne pouvaient pas trop non plus empiéter sur le protocole. Tout simplement. Et cette année, quand je dis aux gens, vous allez voir, ça va être génial, je suis sincère, il y aura du show. Pour parler du VIP Room Palm Beach, alors, plusieurs thèmes. Déjà, le club va être réinstallé dans l'Amirauté, la salle mythique où on a réussi nos plus grands festivals. L'année dernière, on avait fait un chapiteau, mais ça célébrait le 60e anniversaire. Cette année, on revient dans une configuration beaucoup plus clubbing, beaucoup moins vaste et beaucoup plus chaleureuse. On part sur un nouveau thème avec notre architecte Gianni Ranaolo, qui nous fait un truc encore très spectaculaire. C'est véritablement dédié au live cette année, parce qu'il y a une immense scène qui fait plus de 80 mètres carrés, qui surplombe la salle, où évolueront tous les soirs des spectacles avec des artistes, un espèce de cirque contemporain avec plein de shows, plein de surprises, mais surtout tous les gros lives d'artistes internationaux qui viendront jouer au VIP Room Palm Beach pendant le festival évolueront face à 3000 personnes, mais dans une structure lumière et effet incroyable.
Ça va être encore une prouesse technique, parce que j'imagine que pour pluguer le son comme ça sur une passerelle, ça va être un petit peu compliqué.
C'est une véritable prouesse technique, parce que chaque artiste a des demandes très particulières, mais je préfère réaliser des prouesses techniques dans un endroit comme la Miroté, dans le Palm Beach, plutôt que sous un chapiteau, parce que un chapiteau, c'est très aléatoire. L'année dernière, on a eu beaucoup, beaucoup de chance. Il n'a fait mauvais que le dernier jour du festival, mais ça faisait partie du challenge, et ça faisait partie encore du rêve qu'on voulait proposer.
Alors cette année, plus que jamais, tu vas bénéficier d'un atout majeur, tu vas avoir la plus grande terrasse pour fumer.
Ouais.
Là, c'est génial quand même, parce que les clubs n'ont pas ça.
Ça sera très facile, puisqu'on démonte toutes les baies vitrées entre l'intérieur du club et l'extérieur. Donc c'est vrai que naturellement, le club sera à l'intérieur, et il sera également à l'extérieur, puisqu'on va sonoriser un peu l'extérieur. C'est plutôt sympa. Mais surtout, on va pouvoir reconstituer notre restaurant, comme à Saint-Tropez sur la terrasse, mais également deux bars cocktails, boutiques. On a toujours cherché des idées plutôt sympas. Les années précédentes, on avait accueilli pendant 2 ans l'hôtel Le Cube. On avait fait une année un truc qui était génial, ça avait été l'Igloo. L'année dernière, ils avaient refait un truc qui était top, c'était la patinoire. Mais cette année, on construit un circuit de Segway, et qui va être un des partenaires du VIP Room à Cannes, sur la terrasse. Pour ceux qui ne savent pas, le Segway, c'est le truc à deux roues qui marche avec l'équilibre de l'homme, où les gens vont pouvoir, en sortant du club, faire des tours de circuit le soir et s'amuser, parce que nous restons de grands enfants, il faut penser toujours un peu à s'amuser.
Combien de machines à peu près ?
Au moins 30 de machines qui vont tourner.
Ah oui, quand même.
Ça va faire délirer les gens. En plus, on fait un parcours assez drôle. Et puis, Cannes est toujours aux portes du Grand Prix de Monaco. Chaque année, les pilotes de Formule 1 viennent. Je pense qu'on risque d'avoir quelques jolis clichés assez drôles.
On reviendra sur le programme et sur l'éventuelle soirée que tu proposeras à l'occasion du Grand Prix.
Absolument.
On continue dans la configuration du VIP Room. Je crois que tu es parti sur le constat qu'il y avait des boîtes de production qui se sentaient un petit peu oppressées dans la foule. Et donc, tu as décidé une innovation majeure cette année destinée à la privatisation.
J'avais une demande chaque année. C'est vrai que c'est très difficile de privatiser le VIP Room Palm Beach, la salle de l'Amirauté, pour une bonne et simple raison, c'est que c'est une grande salle, il y a 3000 personnes, et puis quand tu donnes rendez-vous à 3000, 4000 personnes tous les soirs, c'est difficile de leur dire un soir, c'est écoutez, je ne peux pas parce que vous comprenez, j'ai loué à Tartampion. Je trouve ça un petit peu maladroit. Donc simplement, je me suis dit, pourquoi n'essayons-nous pas cette année de construire une villa éphémère pour 10 jours ? Une villa qui aura un accès indépendant, qui aurait des jardins immenses, 1500 m², avec tout un mobilier très Arne Jacobsen, qui fête son anniversaire cette année d'ailleurs, chez nous, et qui fait tout un décor sur les terrasses incroyable, un plan d'eau avec une piscine, et une maison avec un décor absolument dingue, qui serait dédié uniquement aux fêtes privées. Fêtes de films, marques, lancement de produits, concerts privés, etc. Cet endroit n'est pas un endroit qui serait accessible au public, sauf, bien sûr, au public qui aurait des invitations. Donc, ça veut dire un accès indépendant de l'entrée du VIP Room du club. Donc, sur le côté, on pourrait venir en bateau, puisqu'il y a un ponton. Les gens peuvent venir en voiture, facilité de se garer, puisque service voiturier, puisque immense parking. Tout est réuni dans cette villa, où on peut accueillir de 100 à 2000 personnes. Et surtout, c'est la villa la mieux placée de Cannes, puisqu'elle est en pleine croisette et que tu as une vue à 360.
C'est ça, il n'y a pas de villa sur la croisette.
Non, mais c'est pour ça que c'est assez drôle. Le challenge, il est rigolo pour ça. Et puis, tu as une vue sur toutes les îles. Le soir, on a été faire un repérage. Tu vois toutes les îles éclairées et tout. Les gens vont halluciner.
Ce genre de construction ne pose pas de problème de permis de construire, notamment ?
Non, c'est pas du dur. C'est de l'éphémère, c'est un décor de théâtre. Puis chaque année, si ça fonctionne bien, on reconstruira une villa, mais complètement différente, pour pousser toujours le rêve un peu plus loin. Moi, je lance un appel aux partenaires. Tant qu'on aura une relation aussi spontanée et naturelle avec les marques, on pourra construire des rêves comme ça. Aujourd'hui, cette villa, elle va être réalisée avec le concours de notre constructeur Audi, parce que eux, ça les fait délirer de faire un truc comme ça. Il y a d'autres marques qui viendront nous rejoindre, dont Pérignon, des gens comme ça.
Ça donc, ce sont les marques qui financent
en partie. Parce qu'il y en a d'autres dont on attend des retours.
Justement, tu as déjà signé des deals. À ce jour, on est début avril. Ceux qui sont tes partenaires actés, il y a Audi.
Il y a Audi, il y a le groupe LVMH, Moët & Cie, évidemment, avec qui c'est une histoire d'amour, puisque avec le travail que l'on fait avec Dom Pérignon, Belvédère depuis des années, ça marche très bien. Il y a le groupe Bacardi, avec qui ça se passe également très très bien. Il y a nos partenaires historiques, et puis il y a ceux qui viennent aujourd'hui naturellement prendre contact, vivre une expérience avec nous, que ce soit à Cannes ou à Saint-Tropez, pour voir comment ça se passe avec le VIP Room, et plus si affinité. J'aime bien les partenariats qui ne sont pas des one-shot, mais qui s'inscrivent justement dans le long terme. Se rencontrer à Cannes, faire un essai à Cannes, faire un essai à Saint-Tropez, Ça veut peut-être dire on se retrouve sur le long terme et ensemble.
Quelle est la typologie de partenaires que tu peux encore signer alors qu'il est ?
Il y en a plein, dans plein de domaines. Je parlais du café. On a parlé à un moment de Nescafé, on a parlé de Lavazza, on a parlé de plein de gens comme ça, parce que je pense que c'est un petit peu l'avenir aussi dans les clubs. Je vois pas pourquoi dans les VIP rooms, il n'y aurait pas un corner café où les clubbeurs pourraient, entre le dîner et le début de soirée, venir prendre un café ou dans la nuit. Je trouve que ça, c'est assez moderne. Je pense également aussi les energy drinks qui sont pas clairement positionnés sur le marché. Il y a plein d'alcool qui, à mon avis, pourraient trouver leur place dans le VIP room. Tout est une question de desiderata artistique, d'envie de créer des événements, de produire des choses qui fassent rêver.
Quand tu dis qu'il y a plein d'alcool qui pourrait prendre place au VIP Room, les marques, tes partenaires ne te demandent pas l'exclusivité ?
Il y a un rapport d'exclusivité sur certaines marques, sur certains produits. Il faut bien comprendre que tous les moyens qui sont mis à votre disposition sont investis dans le show, dans le spectacle. Mmh. Et c'est fait pour rendre la machine encore plus performante, pour la développer. Et qui dit développer, qui dit rendre la machine plus performante, dit que la machine va également vendre beaucoup plus de ce produit-là. Et ainsi de suite. On est tous un petit peu impliqués dans le même combat, dans la même tâche, dans la même envie. C'est créer la performance, créer la demande. Aujourd'hui, je pense qu'à Paris, on ne produit pas assez de choses. J'aimerais, dans le prochain endroit, que l'on retrouve l'état d'esprit que nous avons aujourd'hui quand nous abordons Cannes, quand nous abordons Saint-Tropez, et qu'à Paris, on se tienne à une programmation équivalente. Il faut y croire, parce que ça n'engage pas que moi, ça engage tous les gens qui font ce métier.
Toi qui voyages beaucoup sur l'international, t'as pas la sensation que Paris a perdu un petit peu quand même ses lettres de noblesse ? Paris est redescendu, en tout cas, dans l'univers de la fête. Sans vouloir être passéiste, mais tu fais bouger des choses, il y a des événements qui se passent chez toi, mais ça manque quand même d'événements majeurs.
Je pense qu'on a passé une mauvaise période. La cigarette n'a pas rangé les choses. Le taux de morosité des Français aujourd'hui est au plus bas. Il y a eu l'éclosion des afterwork, qui est une bonne chose. On va peut-être, avec les afterwork, se rapprocher du phénomène anglais.
Tu t'es greffé sur la mouvance ?
Oui, clairement, parce que si on pouvait commencer à faire tourner nos clubs dès 20h, 21h tous les soirs, mais quel bonheur ! Peut-être l'afterwork sera le trait d'union.
Le trait d'union, ouais.
Et ça, ça serait génial. Ouais. Paris n'est pas au top de sa forme, mais n'est pas non plus mal. Et c'est passager, ça va revenir. En 10 ans de VIP Room sur les Champs-Elysées, on a eu des moments un petit entre deux. Là, ça fait 3 week-ends que, par exemple, j'ai l'impression que c'est reparti de plus belle. J'ai retrouvé vraiment l'énergie. Alors nous, on a une chance également sur les Champs-Elysées, c'est que le fumoir est dans la galerie. Aujourd'hui, le plus difficile dans cette histoire de cigarettes, c'est pour les DJ.
Bon, ça, c'était une petite parenthèse généraliste. On va revenir au Festival de Cannes.
D'accord.
Donc, on a parlé de l'aménagement, du festival, du bar cocktail. Il y avait une association, en tout cas dans les locaux l'an dernier. Est-ce qu'elle va être reconduite ? C'était l'association avec le Pink.
Ouais. Elle est actuellement en discussion parce que c'est techniquement pas facile à faire. Le Pink Paradise et le VIP Room ont un souhait commun, c'est de faire quelque chose de beau. Des danseuses professionnelles, stripteaseuses professionnelles qui viennent faire cette prestation. Avoir des filles de grande qualité présentes pour 10 jours. Souvent, c'est comme un petit peu comme les artistes et les joueurs de haut niveau. Elles sont bookées sur des contrats annuels. Et tout, c'est très difficile de réunir une Dream Team pour 10 jours. Mais c'est ce qu'essaie de faire le Pink Paradise avec Murat, proposer ça. Et nous, on essaie de voir budgétairement si on arrive à réaliser cette opération. Ça s'est très bien passé à Saint-Tropez, ça s'est très bien passé à Cannes l'année dernière. J'espère qu'on arrivera à boucler le budget pour pouvoir faire cette opération.
On a évoqué tout à l'heure brièvement le Grand Prix de Monaco. Est-ce que tu organises quelque chose à l'occasion du Grand
Prix ?
Non,
pas cette année, sauf remaniement de dernière minute.
Au niveau du programme événementiel du VIP Room, il sera dévoilé à partir de quand ?
Je pense qu'on va pouvoir commencer à le dévoiler à la fin du mois. On sera à 14 jours de l'événement. La liste des films est présentée le 17 avril. Donc toutes les boîtes de prod vont prendre la décision de dire on est en liste pour le palmarès du Festival de Cannes. Ok, on fait une fête, on fait une soirée. Ça veut dire qu'ils vont courir après des chambres d'hôtel, ils vont courir après un lieu pour le faire, ils vont courir après un traiteur, après toute l'organisation, et ça va partir dans tous les sens. Sauf que c'est fois 20 ou 30 films. Et là, au milieu, c'est un espèce de magma où il faut essayer d'émerger les gros blockbusters et arriver à faire le truc le plus sympa. Et donc, on va se retrouver à une programmation qui bouge d'heure en heure. C'est un petit peu la bourse, là. Entre le moment où la liste est donnée et le moment où on arrête, nous, notre palmarès, c'est un petit peu la course. Mais ça fait partie du phénomène Cannes et du charme.
Parle-moi de tes équipes promo, parce que pour remplir un lieu comme le tien, il y a une promo extraordinaire à faire derrière. J'imagine qu'ils sont à pied d'œuvre toute la journée, en scooter, à travers toute la ville.
Aujourd'hui, sont arrivés des nouveaux médias, Facebook, tous ces univers, là, communiquer sur MSN, pouvoir toujours faire passer des infos. Ça a été une relation avec la clientèle, sans pour autant qu'elle soit tactile, qu'on ait besoin de se rencontrer. Les équipes sont présentes, effectivement, sur la Croisette. Alors, on en parlait du Segway. On a une flotte de scooters. Avec Audi, évidemment, on est ultra présent sur toute la Croisette, puisqu'on va la sillonner entre les Palaces et le VIP Room Palm Beach. Ça ne va pas arrêter. Mais c'est vrai que le Segway, ça va être un mode assez sympa parce qu'en fait, tu peux aller partout, tu peux monter sur les trottoirs, tu peux aller. Je crois que ça va faire pas mal délirer les gens. Mais je crois surtout au nouveau mode de communication, les MySpace et compagnie. Laisse tomber, quoi. Je veux dire que la vitesse d'exécution, comment le bruit court.
Tout le monde n'aura pas forcément son micro-ordinateur, mais tout le monde aura son iPhone et donc pourra surfer.
Ou son Blackberry.
Ou son Blackberry. Et pourra surfer sur le web. Et rapidement, un petit point sur tes projets de développement du VIP Room à l'international. On avait évoqué l'an dernier des transactions avec M. Al-Fayed, notamment à Londres.
C'est un dossier compliqué. J'ai toujours envie de Londres, plus que jamais. C'est une véritable envie parce que c'est un carrefour. Parce que déjà, artistiquement et stratégiquement, chaque année, une majeure partie de l'équipe de Saint-Tropez est dispatchée à travers le monde. Il y a notamment deux éléments forts du VIP Room de Saint-Tropez qui sont basés à Londres, dans deux clubs phares. J'ai toujours la température de ce qui se passe à gauche et à droite. Et en écoutant un petit peu leurs discours et en faisant le point avec eux régulièrement, après les week-ends, savoir un petit peu comment c'était, c'est hallucinant. Et évidemment, ce souhait d'aller à Londres, ça nous ouvrirait, je pense, encore de nouveaux horizons et de nouveaux challenges. Ça serait pas mal.
À propos d'horizon, il y avait aussi Maurice qui est en prévision.
Ouais, Maurice, ça a été évoqué à un moment où on était moins axé sur Londres et compagnie. Après, je pense que Maurice a une certaine qualité de vie, de confort et tout, et qu'aujourd'hui on est plus dans une envie de faire des choses productives. Maurice, je crois que avec le recul aujourd'hui, c'est plus quelque chose qu'il faut regarder comme une semaine de vacances dans l'année avec les gens qu'on aime.
Dubaï,
c'est fou. Moi, je connaissais pas. J'ai été cette année pour la première fois au mois de novembre. J'ai halluciné.
Mais ce qui est fou, c'est qu'on avait évoqué il y a deux ans déjà où le VIP Room Dubaï qui était quasiment sur les rails.
C'est très compliqué. On a appris un métier, celui de franchisé. Ses avantages et ses inconvénients. Tu peux savoir faire un métier dans un domaine. Toi, en tant que propriétaire, en tant que gestionnaire, tu peux très bien apprendre à faire ton métier. Mais apprendre à déléguer, apprendre à collaborer avec des gens qui n'ont pas forcément la même philosophie, c'est une autre approche de la situation qui est beaucoup plus complexe que je ne le pensais. Je pensais que les gens, avec le succès aidant, se mettent au diapason. Eh bien, c'est pas toujours vrai. Le nerf du dossier, c'est le partenaire, toujours. Tu sais, si demain, sur une destination, on parlait de Dubaï, c'est un Las Vegas du Moyen-Orient, c'est hallucinant. Il y a une vraie énergie, ils sont positifs, ils ont envie de construire, tu as l'impression que tout est possible. Moi, ce que je sais, c'est qu'à Dubaï, on m'a proposé des tas d'endroits, j'ai rencontré des tas de gens. Les gens sont très chauds, s'enflamment très vite, mais des gens qui ont signé des licences étrangères, qui ont signé à Dubaï, j'en connais pas. Ouais. Ce jour, il y a Boudabar qui a fait un truc qui est vraiment très bien. Mais c'est l'exception qui confirme la règle.
Et Dubaï par rapport à Las Vegas, ton regard
Les deux sont très bien. Même Las Vegas, avant c'était un truc de touriste. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent à Las Vegas. Chaque année, il y a une progression hallucinante de résidents. Je sais pas si c'est les casinos, l'argent, les spectacles et tout, la lumière à la tombée du jour, les enseignes qui s'allument. En même temps, tu sais quoi, je crois qu'on pourra construire des tas de choses. Cette magie qui est à Saint-Tropez, c'est pas possible, c'est un truc hors du commun. Cette espèce de compromis entre la mer et la terre, entre le trop et le pas assez, ça s'appelle Saint-Tropez. Infobar.com